Allez, on marche encore une petite heure.
Oui. Ouais, tout le monde, on est prêts.
Allez-y.
Et vous iriez jusqu'où pour nourrir votre passion? L'écrivain géographe Cédric Gras, lui, ne compte plus les kilomètres que sa passion pour la Russie lui a fait avaler. Avec son ami Sylvain Tesson, il est allé en sidecar sur les traces de Napoléon et de sa retraite de Russie. Il a également parcouru l'extrême orient de ce pays, la côte pacifique, des contrées polaires à la mer du Japon. Il a accompagné l'automne à pied, à bord de camions, de canots de chasseurs ou de remorqueurs. Un périple qu'il raconte dans son livre « L'hiver aux trousses » chez Folio. Et plus récemment, son amour pour la Russie l'a conduit jusqu'en Antarctique où il s'est rendu à bord d'un brise-glace russe. Il raconte cette nouvelle aventure dans son livre « La mer des cosmonautes » chez Paul Sen. Pour la deuxième partie de notre bivouac, Cédric Gras vient partager avec nous sa passion pour la Russie, pour laquelle il a montré qu'il était prêt à aller jusqu'au bout du monde. Et puis, que serait un été du temps d'un bivouac sans passage, avec à un moment ou à un autre la famille Poussin, partie depuis 3 ans maintenant, faire le tour de l'île de Madagascar en charrette à zébus. Ils y sont toujours et nous prendrons de leurs nouvelles en fin d'émission.
Pourquoi vaut-il la peine de nous arrêter un certain nombre d'heures sur la civilisation russe? C'est précisément parce que la civilisation russe est radicalement différente des civilisations occidentales que nous connaissons. Et voilà une première raison. La seconde raison, c'est qu'elle possède dans cette différence, dans cette originalité, des valeurs qui pourraient être utilisées dans nos pays et qui donc, avant tout, doivent être connus.
On s'interrogeait ainsi sur la Russie, sur la RTF en 1962. Cédric Gras, vous n'étiez pas né.
Non.
Ça a changé ou vous souscrivez avec ce qui vient d'être dit?
C'était la même question au 19e siècle, quand le marquis de Custine voyageait en Russie et se posait les mêmes questions, arrivait aux mêmes conclusions. Aujourd'hui, c'est les mêmes débats. Qu'est-ce qu'on doit faire avec la Russie? En quoi est-elle exotique? En quoi est-elle européenne? Quelle est sa place aux frontières de l'Europe, dans le monde? C'est incroyable parce que ça fait plusieurs siècles qu'on se pose la même question, qu'on a toujours... qu'on regarde la Russie avec une forme d'incrédulité.
Ouais. Vous dites ça d'un ton presque lassé, c'est-à-dire que vous, cette question, vous l'avez dépassée ou elle vous intéresse encore?
Oui, alors un peu de lassitude, mais parce que moi je me suis retrouvé pendant 4 ans et quelques en Ukraine, dans une ville qui s'appelle Donetsk, dans une région qui s'appelle le Donbass, en 2014, vous savez qu'une guerre civile un peu internationale aussi a survenu en Ukraine, dans cette région, et du coup j'ai été pris dans le tourbillon de ces questionnements sur la slavitude, la voie qui serait soi-disant différente de celle de l'Occident, des Russes, un peu de lassitude, oui. Ces discussions interminables, ces débats, ce qui fait qu'aujourd'hui je suis un peu plus basé en France qu'à l'Est.
Comment vous êtes tombé amoureux de la Russie? Vous n'êtes pas d'origine russe. Maintenant, évidemment, avec le temps que vous y avez passé.
Je parle russe, mais je ne suis pas d'origine.
Vous le parlez très bien. Non. Comment vous êtes tombé amoureux de ce pays?
On me présente souvent comme un, vous l'avez fait d'ailleurs en introduction, comme un amoureux de la Russie, un russophile peut-être, enfin en tout cas au sens étymologique, c'est vrai, j'aime la Russie, mais je ne me suis pas mis à voyager parce que j'aimais la Russie. Je me suis mis en revanche à aimer la Russie parce que j'aimais voyager. C'est un pays gigantesque qui, pour les gens qui aiment les immensités, la grande nature et puis des destinations un petit peu moins courues, parce que plus difficiles, eh bien, c'est un pays forcément qui, un jour ou l'autre, finit par être au programme des mois qui sont devant vous. C'est un pays du voyage. L'Eurasie tout entière est un continent fait pour le voyage.
Je croyais que c'était aussi par les Russes et par la culture russe. C'est-à-dire que votre premier contact avec ce pays, c'est d'abord en dehors de la Russie. Vous êtes un alpiniste, vous adorez grimper. Vous avez eu l'occasion de croiser certains Russes sur les parois des montagnes. Et leur tempérament vous a quand même accroché.
Alors c'est vrai qu'après avoir mis les pieds en Russie, après avoir connu mes premiers Russes, etc., j'ai été pris d'un amour fou pour la culture russe, pour la langue. J'ai été dans beaucoup d'autres pays à travers le monde. J'ai toujours essayé d'apprendre un petit peu quelques rudiments de vocabulaire. Mais avec le russe, il s'est passé quelque chose d'un peu spécial. J'ai voulu apprendre cette langue, qui fait qu'aujourd'hui, je la parle effectivement très bien. Et j'en suis très heureux. Ça, même justement, maintenant que je suis revenu un petit peu plus en France, eh bien, c'est une langue qui me permet de vivre la Russie sans y être. Je peux écouter de la musique, lire des livres, regarder des films. Je regarde toujours mes films, mon cinéma en russe. Et ça, ça a été effectivement une grande chose très importante dans ma vie.
C'est une passion que vous partagez avec votre ami Sylvain Tesson, qui était venu il y a 2 ans nous dire lui aussi son attachement pour la Russie et tout particulièrement pour la Sibérie dans le temps d'un bivouac.
J'ai un attrait pour la Sibérie parce que j'aime les Sibériens. Il faut les aimer parce que ils ont très mauvaise presse, je le déplore en ce moment, en Europe de l'Ouest. On tient un peu les Russes pour des espèces de brutes assez ivrognes qui pensent qu'à taper sur les Tchétchènes. Et moi, j'ai découvert au cours de mes voyages en Sibérie qu'il y avait vraiment autre chose. Et notamment, une dimension assez poétique dans le cœur de certains d'entre eux. Il y a des traits de caractère qui doivent probablement être conditionnés par précisément cette géographie de l'immensité. Et cette géographie de l'immensité, à mon avis, a convaincu certains Russes, et notamment les Sibériens, que ça ne servait à rien de trop s'agiter dans la toile de l'existence, de trop essayer d'être maître de son destin. Et ça a conduit, à mon avis, à une forme de fatalisme, que moi j'aime beaucoup, parce que je trouve très beau. On peut trouver que c'est de la démission affreuse, et voire du nihilisme, mais moi j'aime bien l'abandon à son sort. Il y a même un mot russe un peu argotique qui s'appelle le pofigisme, ce serait un équivalent du je m'en foutisme, et qui fait que parfois on est dans des situations avec des Sibériens où finalement la vie est assez agréable parce qu'elle coule comme ça sans qu'on essaye absolument de la guider, de l'orienter avec les armes de sa volonté, de son ambition.
Sylvain Tesson, le 3 juillet 2014, dans Le temps d'un bivouac. Vous partagez son avis ?
Alors, il parle des Sibériens. Ce sont des gens qui sont quand même différents des Russes qu'on trouve à Moscou ou à Saint-Pétersbourg. Je pense justement que c'est plutôt Moscou aujourd'hui qui a mauvaise presse en Occident, alors que nous gardons une forme de fascination pour les Sibériens. Ouais. Parce qu'ils habitent des grands espaces, parce qu'ils habitent très loin. On les absout un petit peu de tout ce qu'on voudrait mettre sur le dos, par exemple, de Poutine, qui lui représenterait peut-être alors l'élite moscovite, sa politique, sa vision du monde. Les Sibériens, je crois au contraire qu'ils ont plutôt bonne presse, en tout cas, tant que je peux en juger. Oui.
Ce serait passionnant, en fait, de vous avoir tous les deux dans le même bivouac et de vous faire
débattre sur la Russie, lui et moi. Ouais. Sylvain est quelqu'un qui a voyagé plusieurs fois en Russie et moi j'y ai vécu. Alors ça implique peut-être chez Sylvain une vision un peu plus romantique de ce pays et moi une meilleure connaissance du quotidien et des choses peut-être effectivement un petit peu moins parfois séduisantes.
Ouais. Donc il vous arrive d'être en désaccord et de vous engueuler sur la Russie l'un et l'autre ?
On n'a pas besoin de s'engueuler, on peut débattre sereinement.
Oui, bien sûr, c'est toujours plus sympa entre amis quand on s'engueule un petit peu quand même. D'ailleurs, dans le livre de Sylvain Tesson sur les chemins noirs, cette grande traversée de la France qu'il a faite après son accident, pour un peu se remettre d'aplomb, pour remettre la machine en marche. Et il y a un petit passage, il a fait l'essentiel du trajet tout seul, hein, sur ces chemins noirs, mais il y a un petit passage où il parle de vous, vous avez fait quelques jours avec lui, à ses côtés, et il y a un petit passage qui m'avait amusé quand je l'avais lu, vous tombez nez à nez avec des chasseurs qui sont, qui vous, là encore, vous réprimandent un peu, comme le dit Sylvain Tesson, les chasseurs vous disent, vous devriez avoir des tenues fluo pour éviter les accidents, nous dit le chasseur. Et alors, vous répondez, apparemment, selon les dires de Sylvain Tesson, vous répondez, messieurs, et là, Sylvain Tesson précise, selon une habitude consacrée en Russie, d'user d'une langue châtiée devant les abrutis, nous sommes confus de vous contraindre à exercer votre sens de l'observation, répondez-vous à ces chasseurs. Et donc, le chasseur vous demande, mais vous êtes ironique, pas d'autres armes, répondez-vous. Et à cette occasion, après, Sylvain Tesson, un jour où nous naviguions sur la rivière Bikine, au nord de Vladivostok, je l'avais entendu lancer à des Russes qui s'insultaient à grand renfort de putain de bites de mes couilles. Messieurs, je vous prie de cesser de jurer. Ce qui avait davantage estomaqué les types qu'un coup de knout en travers de la gueule. Alors, je me demandais, est-ce que c'est représentatif de votre rapport aux Russes? C'est-à-dire cette façon de mettre une certaine distance, peut-être un peu froide, et de ne pas forcément rentrer dans le mimétisme, mais de prendre le contre-pied pour se faire respecter, pour instaurer le dialogue.
Il est certain que dans les relations qu'on a avec les Russes, il faut toujours faire preuve d'une certaine démonstration de force, qui peut prendre différentes formes, mais le Russe est quelqu'un qui aime le rapport de force. Alors je me souviens effectivement quand on était sur cette rivière Bikine, ça fait déjà quelques années, il y avait il n'était pas russe d'ailleurs, c'était un représentant d'un peuple qui s'appelle les Oudégués, et il n'arrêtait pas de jurer cet homme. C'est un peu le malheur de toutes ces petites tous ces petits peuples de Sibérie qui aujourd'hui ont perdu leur langue natale et puis ne maîtrisent pas forcément toujours très bien non plus le russe. Et l'argot russe est un argot qui a été adopté à travers toute l'Asie centrale, l'Eurasie, parce qu'il y a des mots extrêmement puissants. Et alors il jurait, et au bout d'un moment je lui ai demandé effectivement s'il ne pouvait pas s'exprimer de manière correcte, tout simplement. Ça fait beaucoup étonner Sylvain, effectivement, je ne sais pas pourquoi.
Apparemment, mais... oui. De vous voir parler un russe châtié, alors c'est peut-être aussi un peu vexant, il avait été surpris.
Oui, il avait été, et puis le russe en question avait été un peu aussi surpris.
Ouais.
Et j'avais un peu tort d'ailleurs de lui dire ça, parce que c'est vrai que dans les bois, en Russie, dans la taïga, il y a une langue extrêmement peu châtiée, là, pour le coup, et que c'est quelque part la mode d'expression normale de ces régions.
Ouais. D'où peut-être sa surprise que vous ne compreniez pas qu'il s'exprime comme ça. Avec Sylvain Tesson, vous avez fait un peu les 400 coups, hein, notamment dans ce livre là où vous repartez sur les pas de Napoléon et de cette débâcle, hein, cette Bérézina en Russie. Ça, c'est un bon souvenir, ça.
Oui, c'est un bon souvenir. Ça, c'est vraiment les côtés extraordinaires de Sylvain Tesson, une idée un peu comme ça loufoque, mais en même temps géniale, parce que d'ailleurs on l'a vu après à travers son livre Bérézina, elle a permis cette idée de reparler de cette incroyable odyssée de la campagne de Russie, de la grande armée napoléonienne. Donc c'était, oui, l'idée était amusante et en même temps tragique. Il y avait une alternance comme ça d'émotions et puis de franches rigolades. Ça a été une dizaine de jours assez sympathiques.
Alors il vous arrive aussi de voyager seul. Vous avez d'ailleurs intitulé l'un de vos précédents livres « L'hiver aux trousses », très beau titre, hein, mais qui représente bien ce que vous avez voulu faire, parce qu'en fait, vous auriez aussi pu dire « À la poursuite de l'automne ». Finalement, pour échapper à cette saison qui vous courait derrière, vous évoluez, vous avancez sur une côte assez méconnue, hein, de la Russie orientale.
Oui, Sylvain, tout à l'heure, dans l'extrait, parlait de Sibérie.
Ouais.
Alors moi, j'ai vécu pendant plusieurs années dans ce qu'on appelle l'extrême-orient russe. Ouais. Alors, les Français ont du mal à se représenter la chose. Alors, je leur explique, c'est au-delà de la Sibérie. Ah bon, il y a quelque chose après la Sibérie. Oui, il y a quelque chose après la Sibérie. C'est l'extrême-orient russe. C'est l'extrême-orient tout court. D'ailleurs, c'est aussi la Chine, la Corée, le Japon. Voilà. Mais les Russes sont implantés là-bas. C'est sur les côtes du Pacifique Nord, la mer du Japon, la mer d'Okhotsk. Et alors, moi, j'ai vécu et travaillé à Vladivostok pendant presque, je ne sais plus, 3-4 ans. Et j'ai un amour pour l'automne depuis très longtemps. Je suis absolument fasciné, passionné par cette saison. Et j'ai eu cette idée de voyager avec l'automne. Effectivement, le livre s'appelle L'hiver aux trousses, mais l'idée principale, c'était de voyager avec l'automne.
Ouais, de rester en automne. Rester en automne.
En fait, comme c'est une saison très fugace, qui passe très vite, l'été indien, c'est ça. Surtout dans ces régions au climat continentaux, c'est un feu de paille et ça passe extrêmement rapidement. Et l'idée, c'était de prolonger l'automne, de voyager avec lui. Donc pour ça, il faut aller dans le Grand Nord, chercher l'automne fin août et puis descendre avec lui vers le sud. Je l'ai fait pendant 2 mois, jusqu'à la fin octobre. Jusqu'à la frontière de la Corée du Nord. Et ça a été esthétiquement le plus beau voyage de ma vie.
Ouais. Décrivez les paysages que vous avez traversés pendant ces 2 mois.
Et j'avais choisi cette région, pas seulement parce que je la connaissais et que je l'aimais beaucoup, mais aussi parce qu'effectivement, elle est propice à l'admiration, la contemplation de l'automne, qui est une tradition, soit dit en passant, japonaise. Ça s'appelle Momijigari. Ils appellent ça la chasse aux feuilles rouges. Les Japonais, ils sortent au moment clé pour aller contempler les arbres. Et d'ailleurs, le Japon est juste à côté, et il y a les mêmes essences en Extrême-Orient russe qu'au Japon, c'est-à-dire des érables. La feuille d'érable aurait très bien pu, au lieu de devenir le drapeau du Canada, devenir l'emblème de cette région russe. Il y a des érables, une déclinaison d'érables absolument magnifique. Il y a quelques ginkgo d'ailleurs qui ont été apportés par les Japonais, je crois, à l'époque de la colonisation japonaise de Sakhaline. Il y a énormément d'essences. C'est une région, si vous voulez, où le nord est fécondé par le sud. On est là en ce qu'on appelait à l'époque la Mandchourie. C'est vraiment, il y a des essences du nord, des essences du sud, et c'est pareil au niveau de la faune, puisqu'on a des ours et des tigres, ce qui marque vraiment la fusion entre deux latitudes.
Et après tous ces voyages, il y en aura d'autres évidemment, comme si la Russie n'était pas suffisamment gigantesque pour vous, vous décidez d'aller continuer votre exploration ou votre rencontre des Russes jusqu'en Antarctique. Vous prenez un brise-glace russe pour vous rendre dans des bases scientifiques russes. Pourquoi aller jusqu'en Antarctique pour chasser ces Russes?
Oui, alors vous dites vous prenez un brise-glace russe, mais c'est pas une ligne régulière.
On est d'accord.
C'est
oui,
une
oui.
fleur, comme on fait.
Évidemment, oui, oui, c'était une vraie chance.
Oui, ouais. J'étais en fait le premier à accepter sur ce bateau, sachant qu'en plus ils savaient que j'allais écrire sur le sujet, hein, ce qui en général suscite un peu de prudence chez les Russes. Alors Oui, on rendez-vous en Afrique du Sud pour monter dans ce bateau. Eux, ils partent de Saint-Pétersbourg, vous voyez, ils traversent, ils descendent tout l'Atlantique, ils partent de très haut au nord pour aller très très loin au sud. Moi, je les ai rattrapés en Afrique du Sud. Le brise-glace est là, on est au début de l'été austral, c'est-à-dire chez nous, aux portes de l'hiver. Et puis, on monte sur ce bateau, il y a 10 jours de mer assez dur, hein, parce que le 40e au rugissant, les 50e, hein, pour ceux qui suivent le vent des globes, les gens connaissent ça. Mais un brise-glace, c'est pas fait pour tenir la haute mer. Hein, donc, on est obligé de supporter la houle.
Et vous allez nous le raconter, ce voyage à bord de ce brise-glace. On embarque avec Cédric Gras à bord de l'Académique Fedorov. C'est le nom du brise-glace russe en question qui l'a conduit jusqu'à la base scientifique de l'Antarctique. Le temps d'un bivouac sur France Inter.
Je veux voir mon père au sommet d'une montagne. Je veux voir ma mère sous le soleil de juillet, radieuse, et toutes les craintes, toutes les angoisses évanouies. Je veux voir mon frère, ma soeur d'un autre pays. Viens chez toi. Viens t'installer ici, faire une famille. Et tout ce qui, lorsqu'ils parlent, me disent, crachent des grenouilles, mourront de trouilles. Tant la rumeur, qu'ils grossissent leur fait peur, ils vont périr et nous de rire. Je veux voir. Sauvage et invincible, je veux voir la France débarrassée de tous les irascibles, de tout ce qui, lorsqu'ils parlent, me disent, crachent des grenouilles, mourront de trouille. Tant la rumeur qu'ils grossissent leur fait peur, ils vont périr.
C'était Apocalypse à Ipsos, François and the Atlas Mountain sur France Inter dans le temps d'un bivouac avec à mes côtés Cédric Gras qui est l'invité du temps d'un bivouac. Il vient de publier La mer des cosmonautes aux éditions Paulsen. Elle existe, Cédric Gras, cette mer des cosmonautes, où se trouve-t-elle?
La mer MER.
Oui, c'est vrai, j'avais pas réalisé qu'on pouvait l'entendre autrement.
Elle existe effectivement et j'étais très heureux de la trouver sur la carte. Elle est en Antarctique, une mer côtière du continent Antarctique dans le sud de l'océan Indien, enfin, très au sud évidemment. Ouais. Très très belle, très beau nom, très beau nom.
Oui, c'est un beau nom. C'est pas étonnant que vous l'ayez choisi pour faire le titre de votre livre. Et c'est vers cette mer des cosmonautes que vous partez. Vous nous le disiez hein, depuis la pointe de l'Amérique du Sud, de l'Afrique du Sud, cette ville du Cap. Alors le brise-glace s'appelle l'Académique Fedorov. Quand vous l'apercevez à quai, ce brise-glace, quelle impression il vous fait?
Il était tout à fait beau, on va dire, parce que c'était un bateau quand même qui a été construit à la fin de l'URSS. Donc je m'attendais à quelque chose d'assez dégradé, disons, et en réalité, il est très bien entretenu. Il fonctionne très très bien.
Il y avait une avarie,
mais ça, on ne peut pas le savoir quand on arrive, qui nous a cloués à quai pendant presque 3 semaines. Et ça a été un peu dur. Alors moi, j'avais la possibilité de me promener en Afrique du Sud. Les marins russes, en revanche, certains n'avaient pas de visa, c'était très compliqué. Il manquait aussi d'argent de poche, tout simplement, parce que peut-être qu'on en parlera un peu plus loin, mais ces Russes qui s'engagent dans les expéditions au pôle Sud le font beaucoup pour des raisons financières. Donc il y avait, et puis il y avait aussi les scientifiques qui trépignaient, qui voulaient arriver le plus vite possible en Antarctique, parce que la saison est très courte, la saison estivale, et ils ont des programmes effectivement scientifiques à réaliser. Donc le départ était un petit peu angoissant, beaucoup d'attentes.
Mais on vous dit aussi qu'une partie de la poupe a été amputée de 17 mètres, qu'une partie des appareils dont on ne savait pas trop à quoi ils servaient a été vendue à la ferraille.
Ça, on me l'a dit une fois en mer.
Mais c'était vrai, ça?
J'en sais rien. C'est terrible avec les Russes. C'est ce que je dis d'ailleurs, je crois, dans le livre, je mets une petite phrase sur le sujet, parce que je m'en aperçois partout, que ce soit sur un bateau en Antarctique ou en Russie. À la fois, ils se plaignent que le monde entier aime à les caricaturer comme des gens qui sont toujours dans des situations un peu catastrophique,
oui,
et en même temps
ça.
Eux-mêmes, on a l'impression qu'ils érigent en fierté leur tout ce genre de choses, cette espèce d'anarchie qui oui. parfois règne dans ce pays. Donc c'est toujours difficile de démêler le vrai du faux, on n'en saura jamais rien. Il est 86, je crois, la sortie des chantiers navals, donc qui peut dire aujourd'hui comment devait être le bateau.
Ça vous a pas inquiété en tout cas de savoir qu'il y avait une partie du matériel qu'on avait vendu parce qu'on savait pas à quoi il servait?
Ça fait 30 ans que ce bateau tourne en Antarctique, donc il est solide.
Alors le bateau part, vous êtes dans quel état d'esprit au moment du départ?
Très impatient, on arrive en Antarctique, 3 semaines à trépigner au Cap. Moi, je n'avais pas prévu de passer autant de temps en Afrique du Sud. En plus, je n'avais même pas de tongs et de shorts. Moi, j'étais venu avec mon manteau polaire. J'étais obligé d'aller au marché du Cap pour m'acheter quand même une tenue estivale et pour aller un peu à la plage, etc. C'était pas prévu. Donc oui, j'étais très heureux là. Tout le bateau, tout le monde était soulagé qu'on a pareil et qu'on se retrouve enfin en haute mer.
Alors c'est la haute mer, et c'est une haute mer pas facile, hein, on le sait, hein, dans ce coin-là, c'est les 40e rugissant, les 50e hurlant, enfin bon, ça crie de partout parce que il y a plus de terre, donc les courants aussi bien marins que
rien n'entrave l'océan, Antarctique austral entoure, en fait, il y a un courant, d'ailleurs circumpolaire, qui isole l'Antarctique quelque part climatiquement, et donc aussi tout simplement géographiquement. Un bateau comme un brise-glace, c'est pas du tout fait pour la haute mer, et du coup ça tangue et ça roule beaucoup plus qu'autre chose, qu'une autre embarcation. Et là, il y a des jours, il y a 3-4 comme ça, sans discontinuer, où tout valse, où parfois on n'a plus de déjeuner, plus de dîner, on est obligé d'aller chercher une pomme ou quelque chose à emporter à la cuisine, parce que les assiettes sont toutes brisées, les chaises valsent dans la cantine, etc. Et en même temps, c'est magnifique. C'est un des plus beaux spectacles que j'ai vu dans ma vie, que cet océan déchaîné avec les oiseaux, les albatros qui suivent le sillage. C'est très, très beau.
Vous n'avez pas été malade?
Non. Alors qu'il m'est arrivé de faire des navigations en Arctique sur des voiliers, notamment du côté du Groenland, et j'avais effectivement un peu plus le mal de mer, mais je pense que là, la taille du bateau, c'est quand même 140 mètres. Il roulait beaucoup, mais avec des mouvements beaucoup plus amples, et moi, j'ai pas été malade.
Alors, comment s'organise la vie à bord de ce brise-glace que vous décrivez un peu, et c'est amusant, c'est évidemment pas un hasard, pour aller vers cette mer des cosmonautes comme un vaisseau spatial?
Il y a un confinement sur les bateaux, puis il y a un confinement après en Antarctique sur les bases scientifiques. Moi, c'est quand même ce qui a été le plus dur pour moi, que de me retrouver dans une espèce de prison flottante, puis après une prison des glaces.
Qui aimait les grands espaces, là.
Oui, et puis surtout, qui est toujours voyagé. On parlait de l'hiver aux trousses tout à l'heure, qui est toujours voyagé, souvent seul, avec une liberté totale de décision, d'indépendance, d'autonomie. Là, on est prisonnier d'une grosse logistique, hein, que ce soit le bateau ou après en Antarctique, il y a une logistique, il faut suivre un peu le... Et puis moi, j'étais pas là pour geler. Gêné, au contraire, il fallait que je me fasse discret. Je me faisais oublier, comme je parle russe, c'était très bien, comme ça je me faisais discret, j'avais ma cabine, je suivais les instructions, tout est donné comme ça, une espèce de discipline qui est réglée par des haut-parleurs avec tous les matins des informations et puis des ordres. Alors le défouloir, c'était l'héliport derrière. L'héliport avec deux hélicoptères au centre, enfin un dans le garage et un. Alors les gens vont tourner là-bas, c'est la promenade, mais on avait l'impression d'être des fous dans un asile. Ça m'a beaucoup marqué cette image des gens qui tournaient en rond autour de l'hélicoptère, parce que c'est le seul endroit où finalement on pouvait se défouler. C'était étrange.
Est-ce qu'il y avait aussi parfois droit à un peu de vodka pour se défouler?
Vodka,
c'est un mot qui vient de voda, qui veut dire l'eau, qui est gentil. Ça veut dire la petite eau, comme quelque chose de très agréable.
Ça trinquait à bord de ce brise-glace, parfois, Cédric Gras?
Oui, alors... Officiellement, l'alcool est interdit à bord du bateau et puis dans les bases antarctiques, à l'exception de ce que j'appelle l'alcool officiel. Hein. C'est l'alcool pour les anniversaires, les célébrations, les délégations étrangères, parfois en visite. Alors, à l'exception de cet alcool officiel, on n'est pas censé boire, mais bon, il y a une certaine tolérance. Les Russes, les chefs savent que le Russe ne peut pas vivre sans boire de temps en temps, alors il y a une certaine tolérance. Il y a des bouteilles qui sont cachées, tout le monde le sait. Bon, le principal, en fait, c'était, parce qu'il y a quand même presque 200 hommes à bord, il faut qu'il y ait une discipline, sinon ça ne fonctionne pas, ce genre de choses. Le principal, c'était de boire dans sa cabine. On n'avait pas le droit d'être en état d'ivresse, en fait, dans les coursives ou sur les ponts. Enfin, oui. Il fallait faire ça discrètement.
Il y a l'air d'avoir quand même une certaine discipline à bord. C'est moins festif que ce que je m'imaginais, en fait.
C'est obligatoire. On est quand même là dans des conditions extrêmes. Et encore, le bateau, c'est rien. Après, sur les bases, là, c'est notamment l'hiver, c'est quand même extrêmement, extrêmement dur. Donc, en plus, il n'y a que des hommes. S'il n'y avait pas une discipline, une certaine rigueur, là, ça serait vraiment compliqué.
Il y a des sanctions. Hein, quand par exemple, un homme essaye de forcer la porte d'une femme à bord du bateau, ça sanctionne.
Ben, même au Cap, hein, avant de partir, on en a, je sais plus, 5 ou 6 qui ont été renvoyés en Russie par avion et qui ne sont pas partis en Antarctique, mais, dont certains pour alcoolisme.
Est-ce qu'il y a eu aussi un peu d'ennui à bord de ce bateau?
Beaucoup. Ouais. Mais après, il y a des longueurs de navigation terribles. Et c'est aussi pour ça d'ailleurs que certains boivent. mais il faut voir ce qu'on appelle l'ennui. Cette espèce d'inaction, ça ne m'a pas non plus totalement déplu. Ouais. Ça fait partie du voyage. Des voyages au long cours, on n'a plus l'habitude peut-être de passer des jours, des semaines à naviguer vers un continent lointain. Ça ne fait plus partie de notre époque. Et j'ai beaucoup aimé finalement. Il y a des moments où ça m'énervait presque, j'allais me défouler là autour de l'hélicoptère. Et puis d'autres où j'ai beaucoup lu dans ma cabine avec le bruit de la mer. J'avais un hublot au quatrième pont, c'était superbe. Il y avait une bibliothèque de bord dans laquelle je suis allé puiser beaucoup de choses, d'ailleurs beaucoup de matière pour ce livre, parce que j'ai lu, il y avait les récits des premières expéditions en 56-57, avec l'enthousiasme de l'époque soviétique, l'URSS était un peu à son apogée. Donc je voyageais aussi dans l'histoire de ces expéditions par ces livres. Alors oui, un certain ennui, mais qui n'était pas toujours forcément désagréable.
Ouais. Vous dites quand même, si j'avais été le premier homme en ces lieux, la carte serait truffée de noms puisés dans le lexique de la patience.
Ah oui, bien sûr.
On sent que votre patience a quand même été un petit peu mise à l'épreuve.
Ouais, du coup, la mer des cosmonautes, c'est peut-être plus joli que la mer de la patience. Je ne sais pas, quoi que, c'est pas mal aussi.
Les deux peuvent se défendre. Et vous le dites, hein, ça a été... Alors, ces hommes que vous appelez les polyarniques, ça a été des héros pendant longtemps, hein. Ces Russes qui partaient jusque en Antarctique, c'est un peu des héros déchus aujourd'hui, mais pendant longtemps en Russie, ils étaient vus comme des héros.
En URSS, donc.
En URSS, pardon.
C'est important, du coup, parce qu'effectivement, leur prestige est intimement lié à l'Union soviétique. C'est pour ça que j'ai appelé ce livre « La mer des cosmonautes ». C'est pas simplement parce qu'il y a une mer qui s'appelle « La mer des cosmonautes », mais parce qu'on disait d'eux qu'ils étaient l'égal des cosmonautes. C'était des héros, tout simplement. Alors, c'était pas que pour l'Antarctique. Ils partaient aussi en Arctique, ces gens-là. C'était les mêmes, hein, parce que les pôles, finalement, c'est des conditions climatiques extrêmes qui se ressemblent, même si l'Antarctique est beaucoup plus... austère, beaucoup plus dur, beaucoup plus froid.
Et donc l'Antarctique, c'est le côté pôle sud, et l'Arctique, c'est le côté pôle nord.
Oui. Et donc ces Russes qui partaient, enfin pas que des Russes d'ailleurs, parce qu'à l'époque, ils pouvaient venir de toutes les républiques socialistes soviétiques, mais comme les Russes sont peut-être les Sibériens notamment plus habitués à ces conditions-là, il y avait quand même beaucoup de Russes, de Biélorusses, et on les appelait effectivement les polyarniques, on comprend ce que ça veut dire. C'était les hommes qui partaient au pôle. En fait, c'était des carrières. Ces gens-là s'engageaient pas pour une expédition ou deux, non. Ils faisaient ça pendant 30 ans ou 40 ans. Ils étaient très très absents, très souvent absents de chez eux, mais ils jouissaient d'un prestige. Et puis ils avaient des avantages aussi matériels, salariaux assez importants. Donc c'était une caste, hein, quelque part. Et puis ils ont été des cosmonautes, on disait comme des cosmonautes, parce qu'ils ont été aussi, à cette époque-là où la Russie envoyait Spoutnik, Gagarine, ils ont été aussi des grands explorateurs, puisqu'ils ont été les soviétiques, les explorateurs polaires soviétiques ont été les premiers sur deux pôles, le pôle géomagnétique sud et le pôle d'inaccessibilité relative, qui sont les endroits les plus austères de la planète, avec des températures qui vont jusqu'à moins 90 degrés.
Ils s'enorgueillissent, vous dites que c'est un Biélorusse qui relèvera le minimum absolu de moins 89,2 degrés, et voilà. C'est à Vostok. Sur une des bases antarctiques les plus au centre du continent.
C'est ça, moins 89 degrés, c'était dans les années 80. Depuis, il y a des satellites américains qui ont mesuré dans cette région-là de l'Antarctique, qu'on appelle le plateau antarctique, qui ont relevé jusqu'à moins 93 degrés. Ouais. Mais moi, je préfère la version où c'est le Biélorusse avec son petit thermomètre que celle du satellite.
Et voilà, à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire.
Voilà.
Les Russes sont attachés à l'Antarctique au point qu'ils considèrent, ça aussi vous le dites dans votre livre, mais il me semble que ce n'est pas le cas, pourtant ils considèrent que ce sont eux qui ont découvert le continent.
Oui, d'ailleurs, c'est pas forcément discuté par les autres nations. Hein. Il y a eu en 1819, 20 et 21, je crois, une grande expédition navale. À l'époque, c'était un petit peu, si vous voulez, les Bougainville ou les Cook de l'Empire russe. Ils sont partis comme ça autour du monde. C'était l'époque des grandes découvertes. Et ça s'appelait, dirigé par deux capitaines, Bellingshausen et Lazarev. Et ces deux capitaines ont été, dans l'année 1820 ou 1821, je ne sais plus, ont été les premiers hommes à apercevoir les côtes du continent antarctique. Voilà.
On va y mettre les pieds, nous, sur le continent antarctique, dans un instant, avec vous, Cédric Gras. Oh, I once had love and plenty of money. Yeah. Oh, but now all I have, all I have in my pocket is a nickel and a nail. Oh, no. Yeah. Oh, I had love and plenty of money. Yes, I did. But some way, Lord knows somehow, oh, I fell. Oh, yeah. Cause all I have in my pocket, oh, oh, all I can give a count of is a nickel and a nail. A nickel and a nail. C'était A Nickel and a Nail, Don Bryant, sur France Inter, le temps d'un bivouac.
18 février, il est 8h du matin. Depuis déjà plus d'une heure, le bateau a abordé le continent antarctique. Et nous sommes sur le pont, fascinés comme des petites mouches par la somptuosité du paysage. Il y a des montagnes à l'horizon couvertes de neige qui descendent à pic Oh là là, là on voit passer, il y a des pingouins qui sont sur des bouts d'iceberg. C'est totalement extraordinaire. Il y a des bouts de glace partout qui flottent, de toutes les couleurs, enfin dans les tons de gris, de turquoise, de blanc. Là, devant moi, il y a un gros bout d'iceberg tout turquoise, tout autour des tout petits bouts qui flottent partout. Au fond, une énorme rocher noir couvert de neige. Et on continue, on voit ça à l'infini, tout au bout. Le temps est beau. Il y a du bleu dans le ciel, il y a des grandes traînées grises, mais il y a des grandes plages de bleu. Enfin, c'est une symphonie pour un continent gris, blanc et bleu.
Un extrait de Échappée belle sur France Culture en 1993. Ça doit vous rappeler quelques souvenirs, Cédric Gras, lorsque vous êtes arrivé sur ce continent blanc.
Oui, alors je soupçonne que la dame qui parle là, elle est allée dans ce qu'on appelle la péninsule antarctique, c'est-à-dire ce qui est au sud de la Patagonie, cette espèce d'appendice qui remonte très proche du Cap Horn et qui permet d'être visitable plus facilement. Ouais. Alors les Russes, eux, sont dans la région la plus austère, la plus lointaine, la plus inaccessible. Enfin, c'est très russe comme positionnement géographique. Et du coup, il y a moins de faune parce que c'est très, 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 très dur.
En tout cas, il n'y a pas de pingouins, où qu'on soit. On est d'accord, ce sont des manchots que cette dame a dû voir.
Effectivement, elle s'est trompée. Cela dit, en russe, on dit pingouin. Donc, moi aussi, parfois, je me trompe. Mais effectivement, il y a moins de faune. Alors, on voit, malgré tout, quelques baleines, quelques manchots, surtout des petits manchots qu'on appelle les manchots à Delhi. Et non pas des manchots empereurs, on en voit moins. Mais surtout, ce qu'on voit, c'est de la glace. De la glace. Cette calotte antarctique, là, qui va jusqu'à 4000 mètres, pratiquement, sur le plateau, qui est absolument fascinante. Et puis, des icebergs gigantesques, à la dérive beaucoup plus grande que ce qu'on voit en Arctique, au Groenland.
Ouais. Vous dites que ça ferait passer pour des vulgaires glaçons, les icebergs. Oui. De l'Arctique, les icebergs qu'on observe.
Connu le Groenland après, effectivement, là, si j'y retournais au Groenland, je pense que ça m'impressionnerait plus du tout, parce que ce que j'ai vu en Antarctique, il y a des icebergs qui dépassent même les plus hauts ponts du bateau, et ça, c'est là que la partie émergée, vous connaissez la suite. Ouais. Donc, c'est très impressionnant. On comprend, en voyant ces icebergs, et donc, avant même d'arriver en Antarctique, on comprend quelle est la démesure de ce continent qui fait la surface de l'Europe, hein, rappelons-le, qui a un volume de glace qui, s'il fondait, ferait monter le niveau des océans de plusieurs dizaines de mètres. Hein, c'est pas 3-4 mètres, là on est sur du 50 mètres, 60 mètres, je crois. C'est absolument méconnu, finalement, et très, 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 non pas impressionnant, mais presque angoissant.
Ouais, ces icebergs, vous dites que certains, on s'est trompé, les premières fois qu'on les a vus, on les a inscrits sur les cartes pour
pensant
qu'il s'agissait d'une île.
Des îles, mais il y en a qui s'est détaché, là. Oui. Je sais pas si vous avez vu hier ou avant-hier. Effectivement, là, aujourd'hui, avec notre technologie, puis on le suit depuis longtemps, cet iceberg, donc on sait que c'est un iceberg, mais à l'époque, vous n'avez pas encore cette vision satellite globale, on aurait un marin qui serait passé à côté, aurait mis, il y a une nouvelle île, voilà, à tel endroit, et puis en fait, c'est pas une île.
Ouais, effectivement, tout juste, là, je crois que c'était hier ou avant-hier, un iceberg, c'est le troisième plus gros qu'on ait jamais mesuré.
Oui, ces icebergs-là ont même emporté à certains moments des bases qui avaient été posées par les premiers explorateurs, et donc il y a des comme ça, des cargos qui ont vu dériver des bases au milieu jusqu'aux côtes de l'Afrique.
C'est vrai que ça doit faire un drôle d'effet. Vous, la base que vous avez visitée, sur laquelle vous êtes rendu, c'est la base de Mirani. Elle ne dérivait pas, elle était encore bien accrochée.
Non, très bien ancrée.
Bien accrochée au continent. Et elle vous a fait un effet du tonnerre.
J'ai beaucoup aimé cet endroit. Il faut vous imaginer un décor que de glace, de banquise. Et puis cette base qui date de 1956, même 1955, puisque la première expédition part en 1955, la première pierre est peut-être posée effectivement début 56, mais tout ça c'est encore en état, comment dire, soviétique. Elle a été rénovée une seule fois à la fin des années 70, donc ça nous ramène à Brejnev. Enfin bref, vous imaginez que l'hiver il est fait jusqu'à moins 60 degrés sur la côte, et les fenêtres sont toujours en bois. Rien n'a changé pratiquement. Une partie de la base a été totalement ensevelie par les glaciers, le blizzard. Et on arrive comme ça, c'est l'été, et de toute façon, on ne voit que de la glace. On se dit, mais l'hiver, ça peut être pire. Ouais. On ne voit pas comment ça pourrait être pire. Et là, vous avez une vingtaine de Russes, effectivement, qui vivent à l'année. Donc nous, on a débarqué une nouvelle équipe. On a embarqué celle qui venait de finir ce qu'on appelle l'hivernage. Et moi, j'ai passé quelques jours sur cette base.
De très belles histoires se sont nouées dans ces bases antarctiques. D'ailleurs, vous y faites régulièrement référence, des histoires aussi de fraternisation scientifique avec les Russes comme ça au beau milieu de l'Antarctique. Alors c'est une base sur laquelle vous n'êtes pas allé, Vostok, elle est plus au centre, on en parlait tout à l'heure, mais Luc Jacquet était venu dans cette émission nous raconter son souvenir de Vostok, où il était allé sur les pas de Claude Lorius, le glaciologue qui a découvert dans les glaces le changement climatique.
Je pourrais vous raconter 500 histoires sur Vostok. C'est un lieu extraordinaire par essence, c'est le lieu le plus reculé de l'Antarctique, c'est le pôle d'inaccessibilité, c'est celui qui est le plus loin, quelle que soit la côte d'où vous allez partir, c'est celui qui est le plus loin. Base russe, des plus sommaires, mais avec une humanité, bref, c'est un lieu incroyable, c'est l'Everest de l'Antarctique, oui, d'une certaine manière. Et qu'est-ce qui se passe à Vostok? Il y a plusieurs voyages. Je vais vous raconter cette anecdote. Claude, en 74, se pose à Vostok. On coupe pas les moteurs de l'avion, tellement il fait froid, on a peur que les moteurs gèlent. On leur dit, ben voilà, vous avez 3 ou 4 heures devant vous. Il est avec un Norvégien qui s'appelle Willy Dansgaard à l'époque, qui est très porté sur l'analyse des isotopes. Et Dansgaard a une obsession, c'est faire des prélèvements de neige. Claude, lui, va boire de la vodka avec le personnel, ouais, parce qu'ils s'en boivent beaucoup. Et les types lui disent, bah oui, bah effectivement, on conserve de la glace, tiens, ça t'intéresse, allez, tiens, quoi, rebois un coup. Et il descend et il ouvre une cave. Et effectivement, dans cette cave, qui est à température ambiante, moins 57 degrés, la température annuelle de Vostok, et là, toutes les carottes de glace prélevées sur 2000 mètres de profondeur qui sont rangées, étiquetées. On savait pas trop quoi en faire, mais de manière un peu méthodique, on avait battu, on les garde. Parce que ce qui intéressait les Russes et les Américains à l'époque, qui étaient dans une concurrence complètement folle, ouais, c'était de savoir ce qu'il y avait dessous. Est-ce qu'il n'y a pas du pétrole, est-ce qu'il n'y a pas de l'uranium, etc., etc. Et Claude voit ça, ne dit rien, ferme sa bouche, remonte dans son avion en disant « Il faut que je revienne ici parce que les Russes ont un savoir-faire que nous, on n'a pas. Ils sont capables de forer très profond. » L'histoire des foreurs russes, c'est déjà une histoire en tant que telle. Ils commencent en soudant des bouteilles de gaz les unes avec les autres parce que l'hiver est long là-bas, il faut, ouais, s'occuper. Donc il y a plein d'histoires qui sont absolument rocambolesques. Et effectivement, Claude revient avec une équipe puisqu'il a réussi à créer, je dirais, des relations avec les Russes et les Américains. À un moment où, parce que ces types reviennent de l'Antarctique, parce qu'ils ont hiverné ensemble, parce qu'ils ont cette culture de la solidarité, ils disent « Ok, là il y a la politique, et puis là il y a l'Antarctique et il y a la science. » Et on va faire de sorte que des avions américains vont amener des chercheurs français sur une base russe pour analyser de la glace, parce que ce qu'on pressent qu'il y a ici, ça intéresse le monde entier.
Le réalisateur Luc Jacquet, hein, qui a fait ce film sur Claude Lorius et aussi
La marche de l'empereur.
Et c'est vrai que c'est enthousiasmant de cette histoire. On comprend que vous aviez aussi envie d'aller la sentir, la renifler dans ces bases russes.
Oui, bah d'abord il y a une chose très intéressante, c'est de voir que les Russes, qui est un peuple plutôt tourné vers l'Arctique, eh bien est si présent au pôle sud. Mmh. Moi, ça a été une découverte. C'est une des nations les plus présentes dans l'histoire de la conquête de l'Antarctique et puis encore aujourd'hui. Et puis il y a cette histoire effectivement dont Luc parle très bien, c'est-à-dire la coopération internationale qui nous ramène aussi encore une fois à l'espace. Ouais. Ça parce que dans la station spatiale internationale, on ne fait rien d'autre que ce que Luc vient de raconter à propos de la station Vostok. C'est pour ça que j'ai appelé ce livre La mer des cosmonautes. 1961, Gagarine part dans l'espace. 1962, les Russes arrivent dans cette mer vierge à l'époque, puis décident de la nommer la mer des cosmonautes. Et puis il y a beaucoup de choses en Antarctique qui nous ramènent d'ailleurs à l'espace, puisque quand on parle de température de moins 80, moins 90 degrés, eh bien on est sur des températures qui correspondent à celles de l'équateur de Mars, par exemple. Donc il y a quelque chose qui relève du cosmos. Déjà, on est sur un continent qui est pratiquement stérile. En tout cas, à l'œil nu, on ne voit qu'un monde minéral et glaciaire. C'est très très dépaysant, même très très dur hein, finalement d'y passer une année. Quand on revient en Afrique du Sud, moi après 3 mois, j'étais tellement heureux de revoir de la chlorophylle, d'aller au jardin botanique de la ville du Cap. Ça a été quand même une expérience, l'expérience d'un voyage un petit peu hors du monde.
Ouais. Ouais. Vous pourtant, à qui le froid ne fait pas peur, vous dites je suis celui de ceux qui se réchauffent plus que qui se rafraîchissent.
Oui, c'est-à-dire... oui, mais c'est pas une histoire de froid là, c'est vraiment l'œil, ouais, l'œil qui est saturé par le blanc. En plus, en été, le soleil ne se couche jamais. On est saturé par le blanc et même, je vais vous dire, c'est même pas la chlorophylle qui a été ma première réjouissance oculaire. Ouais. Ça a été le moment où, à la fin de l'été, quand même, la banquise finit par se briser. Et là, dans les fissures, et vous voyez apparaître des clairières d'océan, de bleu profond. Et ça, déjà, c'est une jouissance pour l'œil.
Merci Cédric Gras. Votre livre s'intitule La mer des cosmonautes. Il est paru aux éditions Paulsen. Dans un instant, c'est le retour de la famille Poussin et de leur charrette à Zébu sur les routes de Madagascar.
Je suis l'homme à la tête de chou. Moitié légumes, moitié mec. pour les beaux yeux de Marilou, je suis allé porter au clou ma Remington et puis mon break. J'étais à Foncal à bout de nerfs, j'avais plus un copec. Du jour où je me suis mis avec elle, je perdis à peu près tout. Mon job à la feuille de chou, à scandale qui me donnait le beefsteak. J'étais fini, foutu, échec et mat aux yeux de Marilou, qui me traînait comme un blanc bec et me rendait moitié coucou. Ah non, tu peux pas savoir, mec, il lui fallait les discothèques et bouffer au Kangourou Club. Alors je signais des chèques sans provision, j'étais fou, fou. À la fin, j'y fis le caillou comme un melon, une pastèque. Mais, maman, je ne vais pas tout déballer comme ça, aussi sec. Quoi, moi, l'aimer encore? Des clous. Qui et où suis-je? Joue ici ou dans la blanche écume d'un rec. Sur la plage de Malibu.
C'était l'homme à la tête de chou. Alain Bachung chante dans le temps d'un bivouac, dont la programmation musicale est signée Chewbacca.
Allô?
Allô?
Ici Madagascar.
Vous pouvez patienter un petit moment?
Oui, j'attends.
En charrette à Zébu, la famille Poussin sur France Inter.
L'appel téléphonique le plus extraordinaire que j'ai jamais fait d'ici.
Alexandre Poussin, vous étiez déjà là au téléphone dans le temps d'un bivouac il y a 3 ans pour votre départ avec votre charrette à Zébu sur les routes de Madagascar. Et vous y êtes toujours, vous n'avez toujours pas fini le tour de cette île merveilleuse. Bonjour Alexandre.
Bonjour, bonjour. Oui, au bout de 3625 kilomètres, on est toujours fidèle au poste avec nos 4 zébus maintenant et nos 2 enfants.
Et alors, comment allez-vous?
Ça va bien. Il y a eu des difficultés cette année. Hein. Beaucoup d'épreuves sur cette côte est, une main cassée, le cyclone Nao qui a ralenti, ravagé toute la côte entre Antala et Sandbar. Une traversée de la belle anthologie L'Épique, où on a failli être perdu corps et bien dans une tempête avec un bateau qui était un véritable sabot. Les élus ont souffert, ils ont été blessés, on les a soignés, enfin voilà.
Ah oui.
Ça fait partie de l'épopée Madatrek et on avance plus lentement que prévu.
D'accord.
Mais on a toujours le courage d'avancer.
Bon, bah, du coup, je suis d'autant plus content de vous avoir au téléphone, sachant que vous êtes revenu de toutes ces épreuves. Là, vous êtes où exactement, Alexandre?
Alors on est à Sandbar, capitale de la Vanille, dans le nord-est de Madagascar. On se rapproche donc de Diego, on est peut-être à 150-200 km de Diego, peut-être un peu plus, je ne sais pas encore. Voilà, on a le bout du pays en ligne de mire, on a bien avancé,
ouais.
Et, on a complètement changé de région. Là, maintenant on est dans la péninsule de Massoal en fait, qui conserve encore de très très belles forêts. Et on vient d'en visiter une magnifique.
Oui, je crois que vous revenez d'une excursion, c'était hier, dans une forêt primaire, c'est-à-dire une forêt extrêmement conservée, finalement.
Oui, vous savez, les nouvelles ne sont pas bonnes en provenance de Madagascar en ce qui concerne les forêts. Elles disparaissent toutes, pour de très nombreuses raisons. Et c'est très, très difficile d'endiguer cette disparition. Et ici, ils y sont parvenus à Marogège, le parc de Marogège, au-dessus de Sandbar. C'est 60 000 hectares de forêt primaire absolument intouchée, sublimissime, à perte de vue. C'est une citadelle imprenable, en fait. C'est la montagne qui fait que la forêt est imprenable. Et les populations riveraines se sont beaucoup enrichies avec la vanille ces dernières années.
Mmh.
Et ont ceinturé l'ensemble du parc de plantations de vanille. Et là, évidemment, il n'est plus question d'y mettre le feu. Donc c'est une sorte de barrière naturelle qui va protéger durablement cette forêt. Mais néanmoins, il faut venir la visiter parce que sans la venue de touristes et de visiteurs, eh bien, il n'y aura pas l'afflux d'argent nécessaire pour maintenir les gardes forestiers, les porteurs, les guides, les spécialistes de cette forêt. Donc c'est un besoin impérieux, une nécessité impérative de venir visiter cette forêt pour la maintenir en vie. C'est une des dernières impacts à Madagascar.
Et Alexandre, vous y avez croisé des animaux rarissimes dans cette forêt préservée?
Alors, j'avais entendu parler de l'existence d'un tropithèque soyeux tout à fait blanc. Ici, on appelle ça un chifax. On avait filmé un beau documentaire à Berens, dans l'extrême sud du pays, où il existe le tropithèque de Véro, qui est noir et blanc. Donc, c'est un lémurien très agile, à la fourrure toute duxteuse. Et lui est intégralement blanc. Et ça, c'est comme un ange dans la forêt. Et il en reste 415 individus. Il a été classé parmi les 25 espèces les plus en danger de primates au monde.
Et vous en avez vu ?
On en a vu 8. Ah oui. Une venait d'accoucher une semaine plus tôt d'un tout petit lémurien minuscule qui ressemblait à un petit rat accroché à son ventre. C'était absolument craquant. J'en tremble encore d'émotion.
Mais oui, on entend ça. Dites-nous, Alexandre Poussin, donnez-nous aussi des nouvelles de la famille. Donc il y a Sonia, votre épouse, et les deux enfants. Ça fait 3 ans maintenant que vous êtes sur les routes avec cette charrette à zébus tirée par 4 zébus qui vous accompagnent. Quel est le moral? Et puis les enfants, est-ce qu'ils se sont faits à ce rythme? Est-ce qu'ils ont quand même envie de revenir en France, de reprendre l'école avec leurs camarades?
Alors on leur pose la question et ils disent cette réponse récemment de dire mais non, mon pays c'est Madagascar, j'y ai vécu plus d'un tiers de ma vie, tous mes souvenirs sont ici.
Ah oui.
Et ben, il est arrivé, il avait 6 ans, et il vient d'en avoir 10, ma vie c'est ici. Et donc non, retourner en France, c'est une réalité, pourtant c'est devant lui, oui. Mais c'est pas une carotte, c'est pas une envie. Oui. Alors il y a une usure, il y a une lassitude évidemment. C'est fatigant ce qu'on fait. Philae, elle, qui a 12 ans, elle a vraiment envie de rentrer. Hein. Comme l'objectif, c'est Noël prochain,
ah oui.
Elle s'y accroche et il ne s'agit pas de trémasser, là. Il faut avancer.
C'est-à-dire, Alexandre, vous avez prévu de rentrer à Noël de cette année et après, c'est définitif, vous ne retournez plus là-bas.
Je vous dis que je vais faire des pronostics avec nous. Hein. Qu'est-ce que vous disiez il y a 3 ans, je sais plus ce que vous disiez il y a 3 ans. On est heureux de ce qu'on fait. Ouais. On maintient un bon équilibre entre la vie de famille, l'aventure et la découverte, entre notre travail aussi, la série documentaire que l'on réalise pour la chaîne Voyage et pour France Pro. On a fini le montage du 9e épisode à distance, grâce à WeTransfer et à Internet. On vient de le recevoir de tout à l'heure. Il y a eu un, j'ai reçu la version
de très bien.
Il y aura un épisode 10 qu'on va monter, et puis il y en aura sans doute une autre série puisque le pays n'est pas fini.
Merci Alexandre. Et si on veut suivre, vos aventures, évidemment, il y a aussi votre site madatrek.com et votre page Facebook. Merci beaucoup Alexandre Poussin et bonne route et peut-être à une prochaine.
Bon, je dois te laisser, je t'enverrai une carte postale.
Demain à 16h, nous reviendrons sur l'aventure de la sonde Rosetta et du petit atterrisseur Philae parti à la découverte de la comète Chury. À demain donc pour de nouvelles aventures et après le journal, vous avez rendez-vous avec Julia Molcou pour un nouveau Mac de l'été.